2010, le stylo à la main, je pensais à la vie de mes rêves. J'ai écrit sur un papier que je voulais rencontrer, étudier, accompagner des personnes qui font des choses extraordinaires dans leur domaine. Ça paraissait fou, voire impossible. Et aujourd'hui, c'est le genre de jour où je réalise que c'est dingue ce qui est possible à celui ou celle qui ose rêver. Dans l'équipe Paradox, on était nombreux à être tellement inspirés à l'idée de recevoir notre invité du jour. C'est un accomplissement pour l'équipe, la récompense de notre obsession à produire toujours du meilleur contenu. Mike Horn est l'aventurier le plus reconnu de sa génération. Il a réalisé un tour du monde par l'Équateur, gravi les plus hauts sommets et a entrepris de traverser le pôle Nord alors qu'il n'avait jamais connu la neige de sa vie. Sur internet, tu peux trouver des centaines d'interviews avec Mike. Alors j'avais envie de vous embarquer avec moi, découvrir ce que je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa tête alors qu'il est en danger de mort? Et surtout, comment il mobilise ses ressources? Je voulais creuser plus profondément comment il dépasse les obstacles et surtout, comment on peut tous apprendre de lui. D'ailleurs, depuis notre échange, il m'est arrivé plusieurs fois, dans des situations de challenge, de repenser à ce qu'il a dit dans l'interview. J'ai vraiment eu une connexion particulière avec Mike. On partage ce même but que d'encourager les gens à vivre une vie sans limite, d'apprivoiser l'adversité comme une opportunité. Il m'a d'ailleurs invité à parler dans son événement Pangea X qui aide les jeunes à avoir un impact sur une cause qui leur tient à cœur. C'est un honneur pour moi. Tu l'auras compris, que tu aies l'objectif de gravir l'Himalaya ou pas, cette vidéo est faite pour toi. Car ce que Mike t'apprend est applicable dans tous les domaines de ta vie. On fait tous face à l'adversité, ou à la peur, ou encore au fait de devoir prendre des décisions qui vont déterminer notre futur ou celui de nos proches. Tu vas découvrir comment Mike arrive à gérer son stress, même lorsqu'il est en danger de mort. Comment il a survécu à une morsure de serpent en Amazonie, mais aussi comment il a réussi à créer un équilibre entre sa vie de famille et sa passion de l'exploration. Dans un monde qui devient de plus en plus changeant, chaotique, ce que je vais garder de notre échange, c'est la capacité à être calme dans la tempête. Prépare-toi à être inspiré et à découvrir l'univers incroyable d'un homme hors du commun. Bon visionnage.
La vie en général, il a 30 000 jours. C'est à 30 000 jours jusqu'à 82 ans. La moitié du temps, tu dors. Puis jusqu'à 10 ans, tu ne fais pas grand-chose avec ta vie. Ça veut dire qu'indirectement, on a 12, 13 000 jours à vivre. Ces 13 000 jours peuvent être très intéressants ou très chiants, dépendant à ce qu'on choisit de faire. Je préfère d'avoir une vie large et courte qu'une vie longue et étroite. Mais il y a deux choix à la vie. Il y a une vie que tu choisis qui disait court, mais large. C'est comme marcher sur la précipice, la falaise. Dès que tu fais une erreur, tu tombes et tu es mort. C'est un choix de vie. Deuxième choix de vie, si tu marches loin de la falaise, tu as une vie étroite et longue. L'étroite, il n'y a pas une grande chose qui se passe. Tu peux faire des erreurs, tu peux tomber. J'ai choisi cette vie sur la falaise où je sais que quand je fais une erreur, je tombe et je meurs. Je préfère d'avoir une vie large et courte qu'une vie longue et étroite. J'ai peur de mourir sans faire quelque chose avec ma vie.
Je suis très content que tu sois là, ça m'impressionne ce que tu fais. Je me fais un bain glacé par an, déjà je trouve ça dur pour moi, alors j'imagine même pas ce que ça donne de pouvoir vivre tes aventures. J'aimerais bien qu'on parle du lac Victoria. Tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé et puis après j'aimerais qu'on creuse. J'ai des questions bien particulières par rapport à cette expédition.
Écoute, lac Victoria, c'est la plus grande lac en Afrique. Il fait 600 km de large. C'est une mer. Dès que tu as un peu d'ivent et tout ça, tu as vite des vagues qui se forment et puis ça devient un océan. Et puis moi, naïvement, un peu cowboy, je dis, mais je prends un petit bateau de pêcheurs parce qu'il y a des pêcheurs qui font leur pêche le long du bord, tu vois, juste dans l'eau. Et puis je dis, mais il faut un bateau comme ça, un petit pirogue, mais qui fait une fois et demie la grandeur de cette table. Je charge mes commerces dedans, mes sacs à dos, et puis un peu la nourriture. L'eau, rien, parce qu'on est sur un lac qui est pas salé, un lac qui est de l'eau douce, et puis je commence à ramer. J'avance quand même pas mal à la rame, et un pan de paix de vent sur les lacs, c'est calme. La nature est tellement bien faite qu'elle te donne un calme avant chaque tempête.
Avant l'obstacle.
Ouais. Et ça, c'est du temps de réfléchir bien, de prendre la réflexion. Tu vois des nuages noirs de l'eau. En Afrique, c'est des thunderstorms, des orages énormes qui arrivent très vite. Hein. Il fait tellement chaud. Et les lacs évaporent tellement d'eau, et puis ça fait des énormes cumulus nimbus, et puis chargé en électricité, et puis en pluie. Et là, je dis, ah, ça va être dur. Mais je ne savais pas à la vitesse que les vagues vont commencer de former.
Ok, donc t'es là, il y a une forme d'adrénaline qui monte, ça te concentre, la partie elle commence, le jeu commence.
Je accepte que je suis dans une situation de galère. Et là, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 4 jours.
Déjà, quand tu vois ça, à quel point tu sais que c'est dangereux?
Oui, là, c'est sûr que la danger vit à l'intérieur de nous. Hein. Dès que tu es un peu comme un animal, tu es exposé à un danger, c'est un sentiment qu'on a. Parce que tu as les yeux, tu as les oreilles, tu peux goûter de l'air et tu sais qu'il y a,
un changement.
Il y a un changement énorme. Tu as un peu peur. Hein. Tu dis, OK, maintenant, ça va être la galère. C'est des moments quand tu chavires, tu dis, mais je voyais ça arriver depuis 4-5 heures. J'espérais que ça ne va pas arriver.
Il y a des phrases que tu te dis à ce moment-là. Tu te parles à toi-même, tu respires d'une certaine manière. Est-ce qu'à ce moment-là, tu changes quelque chose?
C'est juste au moment quand t'as les sens, comme je dis, les oreilles et puis les nez, ce qui odore et les goûts et tout ça. Ça me stimule, c'est pour ça que je suis là. J'étais sur mon petit bateau, un trimaran, dans l'océan Indien. Quand j'ai jamais fait la voile et je traversais l'Atlantique, la Pacifique et l'océan Indien, pendant une tempête tropicale, où pendant 3 jours, j'étais à la barre de mon bateau. Ça veut dire que je sais que j'ai déjà survécu 3 jours. Mmh. Et là, une petite tempête sur les lacs, je peux le faire parce que j'ai sorti de ma zone de confort. Je sais que moi, physiquement, je peux résister. Et si je ne dois pas dormir pendant 3 jours, je ne dors pas. Quand j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, c'était pas juste tous les jours qui était intéressant. La stimulation, c'est quand tu pars en combat. Maintenant, est-ce que je suis bien préparé? Oui, j'ai fait tout ce que je voulais. Et ça donne du confiance. Et moi, je savais très bien que j'étais, en fait, la meilleure personne que je pouvais être. J'ai pas triché sur les expériences et sur les vécus. Et ça donne beaucoup de confiance. Et quand tu es convaincu que tu peux surpasser l'obstacle qui arrive, avant il est là, même si c'est l'inconnu, c'est là où tu as une chance de vraiment surpasser des épreuves. Si tu t'en doutes, mais tu es déjà fini au départ. C'est justement là où les gens commencent mal, en fait, toutes les challenges qu'ils approchent un peu par surprise, c'est qu'ils croient plus en eux-mêmes, ils croient plus dans leur capacité et là tu deviens faible.
Justement, c'est parfait et c'est la raison pour laquelle on a appelé la boîte Paradox, c'est parce que je suis assez fasciné comment trouver cette ligne fine. Parce que d'un côté, on va avoir des gens qui vont être tellement optimistes, tellement, tu dis souvent, je crois pas à la pensée positive, ouais. Qui vont vouloir tellement penser entre guillemets à l'américaine que du coup, bah c'est bon, je vais y arriver, se prépare pas et meurt. Leur business meurt, leur vie meurt. D'autres personnes qui sont trop pessimistes, qui vont être là à avoir tous les problèmes et tous les risques et ne jamais oser. Et toi, dans ce que tu décris, il y a un peu cette ligne entre les deux, c'est-à-dire j'ai confiance, je peux le faire. Je vais aussi sûrement m'entraîner, me préparer, anticiper les risques. T'as ton vécu. Moi, ce qui m'intrigue là, du coup, pour toi, c'est comment tu la trouves, cette ligne? Comment tu sais que là, t'es pas dans un excès de confiance? Parce que l'excès de confiance, ça peut te tuer, surtout en pleine mer, surtout dans des aventures comme toi.
Pour moi, à travers de mes vécus, mon papa qui était un athlète, moi qui jouais pour l'équipe junior nationale de rugby, tous les jours me réveillais pour m'entraîner dans la force spéciale de l'Afrique du Sud. On construit une vie. La vie, c'est juste pas de savoir d'un moment à un autre si tu es capable ou pas. La construction de ta vie te donne comme une boîte d'outils. Et les plus d'outils que tu mets dans ta boîte d'outils, les plus de confiance tu as. parce que tu as les ressources, tu as les vécus, tu as sorti de ta zone de confort. Et comme je dis toujours, c'est que je ne veux pas avoir une vie facile. Je veux avoir une vie difficile. Parce qu'une vie difficile, je sais que je ne veux pas crever tout de suite. Parce que j'ai déjà passé tellement d'obstacles de ma vie. J'étais déjà dans les situations dans la guerre, devant un peloton d'exécution, ou dans une tempête tropicale en mer, ou à 8000 mètres sans oxygène. C'est des vécus. Et ces vécus, c'est des expériences qui construisent notre vie. À travers de tout ce que je fais quand je pars dans l'inconnu, il y a un constant. Il y a moi.
Ta psychologie.
Ma psychologie et ma... comment j'approche mes problèmes. Comment je pense dans la manière de le surpasser. Si c'est dans la jungle, ou si c'est en mer, ou si c'est à 8000 mètres, ou si c'est au pôle Nord, la manière de penser reste pareille.
J'aimerais que tu racontes justement, enfin que tu expliques pourquoi tu dis « je ne crois pas à la pensée positive ». Pourquoi ? Explique-le.
En fait, la pensée positive pour moi n'est pas un geste positif. Une pensée positive, c'est juste une pensée. Et il y a très, très peu de nous qui prend ces pensées et le transmet dans un geste qui te permet d'avancer. C'est pour ça que je ne crois pas dans cette pensée qui est positive. Je crois dans la discipline qui dit « je dois le faire aujourd'hui et c'est comme ça que je veux le faire ». Et à travers de ces actions que tu mets, des actions constructives, positives plus, de plier les sacs de couchage, de mettre tous tes matériels dans la tente, pendant la tempête, d'accrocher la luge, de baisser la tête et de vivre une journée d'enfer. D'enfer. Tu deviens fort. Et c'est là où c'est un contraire de les pensées positives. On était là pour rechercher des ressources et on a devenu plus costaud. On sait qu'on peut résister. Et là, c'est une action positive qui m'apporte beaucoup plus proche de ma but, où je vais aller.
Ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est, je le vois moi de plus en plus autour de moi, et moi j'étais comme ça dans mon adolescence, à vouloir une vie de facilité, et je vois beaucoup de personnes qui vont me dire « Ah, j'ai eu une nouvelle galère dans ma relation, une nouvelle galère au niveau pro », et en fait, ce que tu décris toi via ce que tu vis, c'est à quel point la difficulté, elle te renforce, à quel point la difficulté, elle te permet de te découvrir. C'est comme si tu avais inversé la manière de le voir, là où la plupart des gens vont chercher la facilité et du coup, ça les rend fragiles. Tu vas chercher la difficulté, ça te permet de te découvrir, ça te permet d'être plus fort et donc du coup, de rendre quelque part ta vie plus facile parce que tu es plus fort. Et je trouve que ça s'applique pas simplement dans le pôle Nord, ça s'applique dans tout. Si je veux absolument éviter les conflits, je vais jamais arriver à les gérer. Si je veux absolument éviter de faire des trucs qui me font peur, je ne vais jamais être capable de les gérer. Enfin, moi, c'est ça que je prends, en tout cas, quand je t'écoute.
Non, mais c'est à résumer, mais mieux que je peux le résumer, à résumer, parce que c'est justement ça. Pourquoi tu veux une vie facile? Parce que si tu veux une vie facile, il faut être aussi prêt d'être faible dans les moments quand les autres sont forts.
Et donc, du coup, ta vie n'est pas facile parce qu'après, tu es fragile.
Parce qu'il il va devenir tellement compliqué. Tu as me posé cette question, pourquoi je veux faire ce que personne d'autre a fait? Parce que des fois, tu sais, quand tu marches à Paris ou tu es dans un stade de foot ou tout ça, et tu regardes autour de toi, tu dis, ouais, il y a 70 000 personnes dans ce stade. Et le seul type qui était au pôle Nord, c'est moi.
Ça te fait quoi, ça?
Tu ne penses pas que tu es plus fort ou tu ne penses pas que tu es supérieur aux autres. Chacun de nous est unique. Ça veut dire que, imagine qu'on dise que tu as une opportunité de faire quelque chose avec ta vie qui n'a jamais été fait par avant par quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire?
Moi, par exemple, c'est créer des documentaires qui m'inspirent, que je n'ai jamais vus ailleurs. C'est essayer de rencontrer des gens comme toi qui m'inspirent et essayer d'amener un autre angle dans la conversation. Réussir à l'international en anglais, parce que ça me challenge, ça me fait peur.
mais justement...
C'est tout ça que j'essaie de faire.
Exactement. Et moi, je suis pareil. Juste à l'extrême dans ce que je fais. Et toi, tu es dans ce que tu fais aussi un peu à cet extrême de retrouver les vraies valeurs qui font sens dans ta vie, qui te rendent unique. Et des fois, c'est tout bête et tout con hein, que je dis ça. Quand je suis à l'extérieur, s'il y a une bombe qui explose ou s'il y a une inondation, un feu ou tout ça, j'ai un petit peu moins peur que les autres. Je sais que je ne suis pas les premières qui crèvent. Je sais que dans ma vie, je suis connecté et je veux prendre les bonnes décisions. Ça veut dire que je vis avec beaucoup plus de confiance dans ma vie. Il y a très peu de changements de direction de ma vie qui me basculent. On dit en anglais « anxiety ». On a peur de tout. On a peur de ce qui est notre problème climatique parce que c'est trop grand pour nous de trouver des solutions. On a peur d'exister dans quelques années. Et puis, pour moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur. Parce que je suis un être humain qui a juste fait des choses presque normales et je ne suis pas angoissé. C'est un moment d'opportunité pour moi. Ça veut dire que dans ce qui se passe, en fait, autour de nous, quand on parle de la guerre, on est dans une situation fragile maintenant pour l'être humain. C'est pour ça qu'on est angoissé, parce qu'on n'est pas bien préparé. Et si j'ai moins d'argent et je ne veux pas sortir tous les jours ou deux fois par mois dans les restos pour manger, je veux plutôt manger avec ma famille dans une casserole et puis on va faire un bouillon, on va faire des soupes, on va manger ensemble des riz, comme j'ai fait en Afrique quand j'ai eu faim, quand j'étais gamin. Parce que c'est les meilleurs souvenirs. On a déjà surpassé beaucoup plus de problèmes que ça. Mais on a angoissé, on a peur parce qu'on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir.
J'aime beaucoup ce que tu dis, Mike, parce que ça revient sur ce qu'on disait juste avant. C'est comme si tu as inversé ton modèle. Plus on s'apprend à soi-même à associer l'inconfort avec grandir et progresser, plus on est libre et moins on a peur lié au futur. Moi, ça me parle, c'est un exemple tout simple, mais j'étais à la radio il y a quelques mois. J'étais stressé juste avant d'aller sur l'émission. Et ce qui m'a aidé, c'est de me dire, en fait, là, maintenant, tu es en train de grandir. Peu importe si tu es nul à la radio, là, tu progresses. Et le fait de, toutes ces dernières années, à essayer d'associer l'inconfort avec progresser, ben d'un coup, j'ai beaucoup moins peur de rater la radio. On s'en fout, je vais progresser là maintenant. Et enfin voilà, c'est ce que ça me fait écho de t'entendre.
T'as 100% de nouveau résumé ce que je ressentis. Tu vas jamais gagner si t'as peur de perdre. C'est seulement quand l'envie de gagner devient plus fort de nos têtes que la peur de perdre que tu peux vraiment sortir du lot. Et c'est un conseil que j'essaie de donner à tout le monde. Et ça, j'ai pris, mais à 8 ans, j'ai eu plus peur de perdre. Mais je peux faire 40 000 erreurs, mais je me lève tout de suite. J'assume mes responsabilités. Toutes les décisions que j'ai prises, je l'assume. C'est moi qui ai fait l'erreur, je m'excuse. Mais là, maintenant, je sais que je vais devenir plus fort. Si tu ne fais jamais une erreur, si tu ne tombes pas, comment tu peux vraiment grandir?
Tu vois, c'est un autre truc ce matin. Je regardais beaucoup de podcasts, de vidéos avec toi. Et au début, je voyais juste l'aventure dans le sens, le voyage, les différents endroits du monde. Et plus je t'écoutais, plus j'ai commencé à être pris au trip sur quelque chose de différent et qui, moi, me touche personnellement. Parce que toi, à un moment donné, tu parles dans un des podcasts, je crois, de la notion de risque. Et moi, j'ai eu très, très peur de faire plein de choses. J'avais peur de créer mon entreprise, j'avais peur d'aller aux États-Unis, rencontrer les gens qui m'inspiraient. Et en fait, ce qui m'a, moi, libéré, c'est de me dire... Il n'y a pas de risque en fait. Au pire, il y a des gens qui vont se foutre de ma gueule. Par exemple, quand j'ai lancé mon spectacle, en 2014, j'ai lancé un one-man show. Et l'humour et être ridicule sur scène, c'était ma plus grande peur. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais et si ça ne marche pas ?» Et je leur ai dit « Mais en fait, et alors ? Au pire, j'aurais perdu de l'argent. Au pire, il n'y aura personne dans la salle. Au pire, je ne serai pas drôle. Au pire, ça sera dur. Mais je préfère ça à être à la fin de ma vie, me regarder devant le miroir en me disant « Je n'ai pas essayé de vivre mes rêves en fait. » Et donc voilà, plus je t'écoutais ce matin, plus je me disais, en fait, au-delà de l'aventure dans des décors incroyables, moi, c'est ça que j'entends quand je t'écoute, c'est de rêver grand, d'aller au bout de ses rêves, de faire ce qui est important pour soi. Il n'y a aucun risque. Et pour la majorité des gens, on ne prend même pas les risques que toi, tu prends de mourir. Donc, Je trouve que c'était une invitation à aller vivre la vie qui nous inspire, peu importe si les gens ils sont d'accord ou pas d'accord, peu importe si on va faire des erreurs, on s'en fout en fait.
L'aventure, c'est qu'un prétexte. Ce qu'on fait, c'est quasiment secondaire à ce qu'on vit à l'intérieur de nous. C'est là où ça se passe.
Ça m'intéresse, la relation avec ton papa, quel rôle il a joué pour toi. Et spécialement, il y a une anecdote qui m'a beaucoup parlé dans le vestiaire, si tu peux en parler.
En fait, notre papa, c'est notre papa. C'est l'homme qui vit avec toi. Et puis, pour moi, des fois, on a un bon exemple et des fois, on a un mauvais exemple. Et puis, c'est sûr qu'en Afrique du Sud, mon papa me donnait que ma maman ne me donnait pas. Ma maman, c'était en fait la discipline, un peu l'école, un peu la nourriture, un peu cette rigueur d'être propre sur moi-même et tout ça. Et mon papa, c'était en fait un peu plus les ailes pour aller partir, voler, découvrir en fait qui j'étais et en même temps un exemple. Et puis quand on a un papa qui est joueur de rugby de l'Afrique du Sud, et puis tout le monde parle de lui, et tu vois sa gueule dans les journaux et tout ça, comme gamin, tu es vite fier de ton papa. Et puis tu vois aussi, en fait, quand il est intéressé de partager ses connaissances et tout ce qu'il a vécu avec toi, c'est là où, en fait, tu veux être comme lui. Et puis, dans l'investir, quand il a joué son dernier match de rugby, tous les jeunes joueurs sont venus vers lui en disant « Mais écoute, c'était pour nous aussi un super exemple. » Et puis, moi, je voulais presque dire « Mais écoute, c'est mon papa. Ça, il ne peut pas être un exemple pour vous parce qu'il est un exemple pour moi. » Et puis, quand ils ont continué de parler, ils se sont dit « Mais écoute, ouais, pourquoi on te respecte ? C'est parce que tu étais toujours première à l'entraînement. » Toujours là. Même après 20 ans, tu étais là en première. Tu étais toujours dernière de partir. Tu étais toujours là pour nous écouter. Quand on était faible, tu étais toujours là pour nous donner cet encouragement ou quand on jouait pas bien, on était un peu perdu. Tu as passé du temps avec nous. Et puis, je voyais en fait qu'il ne faisait pas seulement pour moi ça, mais pour les autres aussi. Ça veut dire qu'en fait, je disais à mon papa qu'après, quand ils sont partis, les jeunes joueurs, j'ai dit, mais je vais être comme lui, je vais être comme toi. Et puis là, ils disent, mais écoute, Mike, malheureusement, tu ne peux pas être moi. Et moi, j'étais un peu déçu parce que quand tu ne peux pas être comme ton idole, tu dis, mais waouh, je peux être qui alors? Et puis là, il ajoute du mot magique où ils disent, mais écoute, Mike, je vois que tu es plus grande que moi. Et la meilleure personne d'être, c'est toi-même. Et quand tu es qui tu es, c'est là où tu vas vivre heureuse. Et ça, pour moi, c'est un message qui a changé ma vie. Parce que je voulais être que comme lui, mais là, il grandit mes rêves. C'est une inspiration qui me permettait, en fait, après de dire que ouais, je crois en moi-même. Et puis là, mon papa, il partait courir tous les matins hein, pour s'entraîner. Et à l'âge de 8 ans, parce que j'aimais passer du temps avec lui et tout ça, je me réveillais à 6 heures du matin et je partais courir avec lui. Et puis, il n'a jamais couru moins vite que je pouvais rester avec lui. Il a toujours parti comme un fusible. Bon, et moi, je m'accrochais derrière et jusqu'à ce que je ne pouvais plus. Des fois, je courais jusqu'à je dégueulais parce que je voulais vraiment essayer d'y aller plus loin tous les jours. Et quand je ne pouvais pas aller plus loin, je tirais un trait en fait sur le trottoir, une ligne. Et puis tous les jours, j'ai battu cette ligne. Et quand il me demandait pourquoi tu penses que je m'entraîne tous les matins, je pensais qu'il s'entraîne pour être plus fort, pour ajouter une valeur à son équipe, pour mériter sa place. C'est pour ça qu'on s'entraîne de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et puis là, ils disent, mais écoute, Mike, c'est pas exactement pour ça que je m'entraîne. D'être la meilleure version de toi-même, c'est ça que tu dois faire tous les jours. Je m'entraîne parce que je suis inspiré. Et c'est toi qui m'inspires. Quand j'ai des petites pattes derrière moi et je traverse cette ligne, j'ai un truc dans ma tête, c'est j'espère que tu es derrière moi et tu battes cette ligne. Et c'est cette inspiration qu'à 8 ans, je donnais à mon papa. Et je pensais qu'en fait, c'est lui qui me donnait l'inspiration de me réveiller. Mais en fait, c'est deux mots un peu clés de ma vie qui étaient « je peux être qui je suis, je peux être grande, meilleure personne d'être, c'est toi-même ». Et quand tu commences à inspirer des gens, c'est là où tu grandis.
Comment tu as été en tant que papa? Parce que tu dépasses tes propres limites, tu essaies d'aller de plus en plus loin. Comment tu as trouvé l'équilibre en tant que papa entre laisser de l'espace à tes enfants, les challenger en leur disant qu'ils peuvent faire plus? C'est une ligne qui est pas évidente à trouver. Comment ça s'est passé pour toi?
Quand moi j'étais jeune, j'ai eu la liberté, puis avec un seul règle qu'à 6 heures du soir, je dois être à la maison. Je n'ai pas besoin de dire à mon papa ou ma maman où je voulais aller. 6 heures du soir, tu es à la maison. Ça, c'était la règle de mon papa. La règle de ma maman, tu dois rentrer comme t'as parti. Il ne faut pas rentrer avec les os cassés et puis fracassés et tout ça. Tu rentres comme tu pars et tu peux continuer de partir. Tu n'as pas besoin de nous dire où tu vas. Et à 6 heures, tu es là. Deux règles, faciles à comprendre. Pas des règles qui disent « non, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas nous informer tout le temps si tu vas à gauche, à droite, et si tu te déplaces ». Et puis un gamin, c'est quand même une personne qui comprend très vite que deux règles. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment donné des règles à mes filles. Comme je n'ai pas reçu les règles, je n'ai pas donné les règles. Et puis après, j'ai commencé aussi, en fait, de dire qu'on doit faire des choses qui ajoutent un excitement à notre vie. Ça veut dire que quand mon papa, il dit « mais Mike, commence à préparer des caravanes ou des camping-bus qu'on parte ». Et moi, j'étais excité parce qu'il ne me disait pas où on partait, mais prépare déjà notre camping-van parce que ce week-end, je t'amène quelque part. Et c'est ça que j'ai fait avec mes filles. Quand j'ai dit, mais prépare maintenant votre sac. On va traverser les pôles nord. Un truc qui n'a jamais été fait. J'ai essayé de ce que j'ai reçu, de le partager avec les filles. C'est pour ça. Ils sont montés de l'Amazon avec mon petit voilier. Ils sont fait un tour du monde en bateau avec moi. C'est les plus jeunes enfants qui étaient au pôle nord. C'était pas seulement de dire qu'écoute, fait les aventures. Non, c'est « ah ouais, on va en Russie, au fin fond de la Sibérie ». Et puis, c'était jamais moi qui voulais rentrer à la maison pour déstabiliser leur zone de confort à la maison où Cathy, ma femme, a bien réglé ça. L'école était important. En fait, de faire tes devoirs, c'est important. Et puis, les règles à la maison étaient des règles à la maison que Cathy gérait. Et moi, j'étais de nouveau juste là comme un papa qui le donnait les ailes. Ça veut dire que, imagine que je rentre chaque 2 mois ou chaque 3 mois à la maison. Et puis, je vis 4-5 jours avec mes filles. Quand je dois partir, ils vont pleurer. C'est une déchirure d'une famille.
Et ça, toi, tu le vis comment?
Et ça, on n'a jamais fait. On a décidé de pas rentrer à la maison, mais c'est eux qui sont venus vers moi pour me rendre visite. C'était eux qui a quitté leur papa en expédition. Et quand c'était l'heure de rentrer, maintenant, maman, on va rentrer, on va à l'école. D'accord, maman. Et c'est eux qui sont me quittés. C'est jamais leur papa qui les quittait. Et ça veut dire que la manière qu'on éduque est tellement importante. Mon papa, comment il savait où j'étais? Parce que à 6 heures le soir, il était aussi à la maison et il était à l'écoute. Ça veut dire que je rentre à 6 heures le soir et je partage ce que j'ai fait avec ma journée avec lui. Et je dis, ouais, aujourd'hui, j'étais vers la rivière, je sautais dans l'eau, mais il y avait de l'eau qui était brun, il y avait des bois qui flottaient et tout ça. Puis après, il va dire, mais fais gaffe, parce que dès que l'eau change de couleur, il pleut quelque part. Dès que tu vois les bois, c'est les bois qui est normalement sur les berges. Ça veut dire que l'eau monte et ça porte du bois dans la rivière. Et c'est comme ça que j'ai appris. Ça veut dire que, indirectement, quand t'as un papa qui est à l'écoute, un maman qui a des règles et cette discipline qu'on installe dans un enfant. est tellement important de donner la liberté à un enfant sans discipline, tu vas tout droit dans un mur. C'est une catastrophe. Cette discipline le donne une rigueur. Cette discipline le donne une envie de plaisir à travers d'une discipline. Et puis là, les enfants arrêtent de faire chier les gens. Hein. Et puis là, ils sont à l'écoute. Leurs esprits sont beaucoup plus ouverts. De lâcher tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas une discipline. Quand mon papa il arrivait au bout de son carrière comme un joueur de rugby, les enfants à l'école ont commencé naturellement de critiquer mon papa. Et puis, un critique, c'est des fois constructif, c'est bien. Et puis, un critique juste pour critiquer, pour écraser quelqu'un, quoi, j'aimais pas trop. Ça veut dire que j'étais très sensible aux critiques positives et aux critiques qui détruisent, négatives. Mon papa, il a joué, l'équipe a perdu, et puis j'arrive à l'école du lundi, et puis il jouait chaque samedi, puis j'arrivais à l'école, et puis moi j'ai eu 13 ans, les seniors à 18 ans, et puis il y a un groupe de mecs qui a 18 ans, quoi, les costauds, déjà les barbes, et moi, un petit timide 13 ans, fort entraîné, très discipliné dans ma vie, mais fier de moi-même, mais je suis plus jeune qu'eux. Ils arrivent, ils grandent, ils me poussent un peu à gauche, à droite, puis ils disent, mais ton papa, il est vraiment nul. Hein. Ouais, je dis, ouais, il n'est pas aussi nul que ça, parce qu'il joue quand même pour l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Il est trop vieux, il doit arrêter, quoi, il fait perdre son équipe, il porte rien de valeur et tout ça. Et ça a commencé de me toucher. Et normalement, mon papa me disait qu'il ne faut pas tout écouter. Quand ça va trop, ça détruit en fait tes pensées positives que tu as vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, il y a un moment que je dis, mais là, il va trop loin, ce type. Et je vois devant moi, il est grand et moi, je suis petit. Et tout d'un coup, je suis devenu plus grand que lui, en confiance. Et je dis dans ma tête, je veux péter sa gueule là maintenant. Et puis, je recule un peu comme je faisais la place. Lui, il est venu vers moi, j'ai reculé un tout petit peu, il voulait venir me dominer. Mais je l'ai eu exactement où je voulais. Et tout d'un coup, je saute sur lui comme un lion et je la mets dans la gueule, mais il tombe par terre et j'ai gagné les batailles. 2 secondes plus tard, j'ai perdu la guerre parce qu'en fait, ses amis autour de moi me prennent, lui se lève, son nez m'est pété. Il me regarde comme ça, mais il me fracasse. Il me fracassait l'extérieur, à l'intérieur, j'ai gagné. Parce qu'il était par terre et moi, j'étais... plus grand que lui, même en étant plus petit. Je rentre à la maison. Le nez comme ça, les yeux bleus, les dents et tout. Et puis, mon papa, quand il rentrait à la maison, tous les jours, il prenait du ball de rugby en disant, mais on y va, on va faire des passes, on joue tous les jours. Et puis, je dis, non, je ne peux pas jouer. J'ai des devoirs à faire. Ils disent, mais ouais, t'as jamais dit ça. Et puis je me lève, et il arrive vers moi, il me regarde comme ça, il voit que je me battu. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis, il ne faut jamais se battre. Ils disent, mais écoute, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, tu es trop vieux. Tu dois arrêter de jouer. Les gamins disent à l'école que tu es nul, tu fais perdre ton équipe. Et moi, je ne suis pas d'accord. Et puis ils disent, écoute Mike, je vais te raconter une petite histoire. Et l'histoire qu'ils me racontent, c'est incroyable. Ils disent, imagine que tu marches dans une forêt. Et dans ces forêts, tu as beaucoup d'arbres. Tu as des grands arbres, tu as des petits arbres. Tu as des arbres avec les troncs comme ça, mais énormes. Et puis, ils dépassent les autres arbres. Et puis après, derrière les grands arbres, normalement, parce qu'ils prennent beaucoup de lumière, il n'y a pas grand-chose qui se pousse, mais un tout petit peu plus loin, des petits arbres vont se mettre de nouveau un peu à l'abri des grands arbres. Et puis, parce que j'ai beaucoup marché dans les forêts avec mon papa, il m'expliquait en fait, comment une forêt est construite et comment je peux chercher l'abri vers les grands arbres et pas vers les petits arbres et tout ça. Ils disent, mais imagine que tu as des tempêtes qui arrivent, du vent, la pluie, les grêles et tout ça qui arrivent dans une forêt. Qui ramasse du vent? C'est l'arbre qui est le plus haut, qui dépasse les autres. Et puis, c'est rare que des grands arbres y pètent. Ça veut dire que moi, je suis un des grands arbres dans les forêts. J'ai un tronc comme ça, des racines profondes. Et quand il y a des vents, c'est moi qui la ramasse. Mais je protège tous les petits. Tu décides qui tu veux être dans cette forêt. Mais si tu veux sortir un tout petit peu plus haut que les autres, tu vas ramasser des vents. Mais là, tu dois avoir les racines bien plantées dans la terre. Et ça, c'est moi, malheureusement. Si je joue et je fais des erreurs, je vais ramasser des vents. Et de ramasser des vents fait peur aux gens. Parce que la racine n'est pas assez profonde. C'est pour ça, pour moi, ramasser des vents, de me faire critiquer, pas que je me fais critiquer, mais dès que tu sors un tout petit peu, tu as peur de cet échec. Parce que tu es peut-être pas bien ancré à ce moment. Et c'est pour ça, prends plus de temps de bien t'ancrer, bien solidifier. Et là, tu commences à pousser. Parce que la base est solide.
J'adore cette histoire.
elle est trop bien. Et effectivement, il y a tellement de choses qu'on fait pas parce qu'on a peur d'être critiqué. Alors que hier, j'avais un coaching avec une actrice qui est sur Netflix. Et on avait donc forcément, vu qu'elle monte, eh ben, elle est critiquée. Et justement, c'est ce qu'elle était. Je l'aidais à voir. Je disais, tu ne peux pas faire un truc incroyable sans être critiqué. Et être critiqué, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Être critiqué, ça veut dire que tu es en train de... Pour reprendre ta métaphore, être critiqué, ça veut dire que tu es en train de sortir, là. Ça paraît basique, parce que c'est simple en soi, mais ça lui faisait du bien, en fait, de réaliser que c'est pas... Parce que souvent, c'est... Oh, si je suis critiqué, ça veut dire que je fais pas ce qu'il faut et ça va pas. Et je lui prenais la métaphore de l'aimant. Et je dis, ça n'existe pas un aimant qui attire beaucoup et qui repousse pas beaucoup.
On doit essayer aussi de s'entourer avec les pôles qui nous attirent. Ça veut dire que, pour moi, dans ma vie... Je m'entoure avec les gens que j'aime d'abord, des gens qui croient en moi. Et puis, dès que tu as une conviction, et puis ça, c'est normalement aussi pour les acteurs et des gens qui sont souvent critiqués, ils ne comprennent pas très bien que si moi je suis convaincu que je peux faire quelque chose et je suis bien, cette conviction que j'ai que je peux traverser les pôles nord, ou que je peux descendre l'Amazon à la nage, ou que je peux arriver à 8000 mètres. Je suis tellement convaincu que les autres commencent à croire en moi. Mm. Et quand les autres commencent à croire en toi, et tu leur montres tes côtés humains, tu leur montres que tu es aussi faible dans ces extrêmes, tu peux être aussi fort dans ces extrêmes. Cette conviction que tu as, que tu peux arriver de faire quelque chose qui sort un peu l'ordinaire, mais tu restes un être humain, te donne cette confiance et qui donne la confiance aux autres de croire en toi. Et malgré des critiques ou des succès, des gens savent que tu es un humain, mais tu as essayé. Et ça, ça peut seulement être respecté par les gens. Un critique où des gens perdent leur respect, c'est dangereux. Il ne faut jamais que des gens perdent des respect pour ce que tu fais et comment tu le fais. Mais un critique juste pour critiquer, ça, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard.
Ça coule. Hein.
Ça coule.
J'aimerais que tu parles de ce moment en Amazonie, je crois, où tu te fais mordre par un serpent. Ouais. Tu peux raconter ça? Parce qu'il y a un truc que je voudrais creuser juste après sur cette anecdote.
C'est une histoire pour moi qui, je suis des fois un peu trop motivé. Hein. La motivation, c'est aussi quelque chose qui peut tuer l'homme. Hein. En fait, moi, je suis dans la jungle et je dois traverser l'Amazon. C'est seulement 4200 kilomètres, pas trop loin, prévu 6 mois et je pars.
Tranquille.
Tranquille. Je me trouve dans une galère pas possible des jours avant où j'avançais pas beaucoup. dans les marécages avec l'herbe coupante. Et puis, je suis fracassé un peu. Tu vois, ça, je saigne un peu partout et tout ça. Et là, je dis, mais il faut que je gagne du temps. Il faut que maintenant, je mette un peu plus d'énergie, que j'avance beaucoup plus vite pour raccourcir du temps que je veux passer dans la jungle. Je commence à marcher un peu plus la nuit. J'ai confiance en moi-même. Quand on marche la journée, on contrôle la situation. Quand on marche la nuit, on ne contrôle pas toute la situation. J'ai pris confiance en moi. Je dis, je peux marcher la nuit. Sans marcher sur les serpents, de voir des choses, d'écouter tout ça. Je coupe les branches devant moi avec la machette et je sens comme une morsure. Mais parce que je saigne partout un peu, et des fois on cogne notre main et bras contre les trucs, ça fait mal partout.
Donc ça va.
Donc ça va. Mais quoi, 2 minutes plus tard, wow, c'était comme j'ai bu une bouteille de pastis. Hein. La terre tourne, hein, moi qui tourne autour de la terre. Et je commence à avoir un problème de vision, tu vois, de focus. Et c'est nuit. J'ai la lampe frontale, je dis, mais je suis empoisonné. J'ai touché quelque chose ou quelque chose me mordu ou je suis déshydraté, je ne sais pas ce qui se passe. Et je regarde, j'arrête, je regarde. Je dis, ah oui, tac. Je vois les 2 petits trous de mon petit doigt. Parce que j'ai porté la machette à main droite, et je coupais à la main droite, un serpent qui était dans les arbres qui vit entre la hauteur des têtes et du torseau là, je mis mon main dans sa gueule. Et puis voilà, mordu. Maintenant, il faut que tu gères la situation. Tu sais pas quel serpent te mordu, parce que dès qu'un serpent te mord, la première truc que tu fais, tu prends la machette et un couteau, tu coupes la tête 2-3 cm derrière la tête et tu ouvres l'estomac. Tu regardes un peu dedans s'il a bouffé ou s'il n'a pas bouffé, parce que s'il n'a pas bouffé, tu vas mourir et tu ne peux pas avoir des soucis parce que tu sais que tu vas mourir, il n'y a pas de problème. Mais s'il a bouffé, c'est là où tu as une chance de survie, parce qu'il a utilisé ses venins pour tuer des proies, pour manger, et ça prend une semaine de reproduire une quantité assez forte pour tuer quelque chose d'autre. Ça veut dire que là, je suis dans l'inconnu complète. Et puis, je dis, mais l'effet, il est tellement énorme parce qu'en coupant les arbres, en marchant la nuit, en étant actif, mon corps, il bat. Il est tout le temps, oh, boum, boum. Des fois, il va à 120, des fois, il va même plus haut quand je suis dans l'effort. Il faut le ralentir parce que là, maintenant, ça va trop vite, je veux mourir. La quantité de vénin qui arrive dans mon corps est trop importante. Et là, tout de suite, on sait que quand tu te fais mordre, tu dois mettre la morsure plus bas que le cœur. Tu dois te mettre tranquille. Tu dois essayer de ralentir les battements du cœur.
Ralentir le battement du cœur, comment tu fais?
C'est en couchant. Mais c'est aussi en pensant.
Oui, parce que si tu paniques, ça va... C'est
la... Exactement.
Alors,
exactement.
Comment tu fais pour ne pas paniquer, pour gérer ton calme?
Pour moi, c'est important de savoir que dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses. On dit que quand tu as des soucis, tu vas mourir. Quand tu n'as pas de soucis, tu vas aussi mourir. Alors pourquoi avoir des soucis? Ça ne sert à rien, parce que dans les 2 cas, tu vas mourir. Et quand on se calme, c'est qu'on accepte la situation. Et puis on sait que si je ralentis pas mon corps, je peux éventuellement mourir. Mais je veux tout faire maintenant pour que je fasse des bons gestes qui me donnent une chance de survie. Et j'accroche à cette chance de survie, je ne pense plus à mourir. Ma tête, il trouve tout de suite cette chance de survie. Ça veut dire que, dans un autre cas, quand tu penses que tu vas mourir, et c'est fini, et ça va continuer de se battre ton cœur, parce que tu es stressé. Et là, tout d'un coup, je suis devenu vraiment calme. Maintenant, il faut retrouver ce qui va m'aider et pas ce qui va me tuer. On a chacun de nous la capacité de le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sait, on ne sait pas utiliser notre corps à 100% de notre capacité. Pourquoi je suis un explorateur? Juste parce que j'ai exploré la capacité d'être humain. Et là, je retrouve donc ce qui me donne cette tranquillité. Et puis, je dis, voilà, maintenant, mettez-toi bien dans la hamac et tu vas récupérer. Heureusement, la morsure était dans mon petit doigt, je pouvais la pendre. Et puis, de monter avec un battement de cœur, moi j'ai eu un battement qui est très lent, ça ne va pas monter vite. Et là, j'ai une chance de survivre. Et ça, ça m'excite, parce que je ne veux pas mourir. Je retrouve l'espoir. Et c'était exactement quand j'étais devant un peloton d'exécution, quelques mois plus tard, que je disais que, en fait, je ne veux pas mourir comme ça. J'étais dans une prison avec quelqu'un d'autre qui pensait qu'il va mourir demain et je pensais que je pouvais rester vivant. Lui, il est mort les soirs avant. Et puis, quand on était mis devant la peloton d'exécution, c'était lui qui... Ils sont tirés sur lui en première. Il est mort parce qu'il a déjà été mort les jours avant.
Là, il y a un truc qui m'intrigue. J'aimerais comprendre mieux comment tu fais. Parce qu'à la fois, tu t'accroches à vivre, mais j'ai l'impression que tu es quand même plus décontracté que la moyenne à mourir. J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Parce que ce qui peut faire aussi que j'arrive pas à me focaliser sur vivre, c'est « je vais mourir, c'est horrible ». J'ai l'impression que c'est un peu les deux en même temps. C'est « je m'accroche à vivre », au pire, entre guillemets, c'est « ok de mourir ». J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, mais je...
Mes filles, après la mort de ma femme, je restais à la maison. Et Annika et Jessica sont venues vers moi en disant « mais papa, tu es mort. Pourquoi tu voulais traverser les pôles sud et les pôles nord? Pourquoi maintenant tu vas rester à la maison? Tu es vivant, mais tu es mort. Il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'étincelle dans tes yeux. Il n'y a plus rien. Repars faire tes expéditions comme tu faisais avec maman quand maman était vivante. Et nous, on est là pour te soutenir. Et des jours, quand tu ne rentres pas, pour nous, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas la fin de notre vie. C'est juste la fin de ta vie. Ça veut dire qu'indirectement, on est un peu égoïste, hein, nous. Je ne voulais pas que ma femme meure parce qu'on était très bien ensemble. Je voulais être bien avec elle. C'est un geste plutôt égoïste. Meurs pas parce qu'on est bien ensemble. Mais elle voulait partir parce qu'elle était malade. C'était douloureux. Ça veut dire qu'elle a choisi aussi de partir parce qu'un cancer, ce n'est pas agréable. Ça veut dire que moi, je dois me libérer de la geste égoïstique de dire « Non, reste avec moi, s'il te plaît, pars pas. » Jusqu'au moment quand je disais « Mais peut-être c'est une solution de partir avec elle. Je veux mourir avec elle. » Et là, elles disent « Mike, tu ne dois pas mourir pour moi, mais tu dois vivre pour moi. » C'est notre message. Quand, à 18 ans, je partais pour faire la guerre en Angola et j'étais dans la force spéciale, je savais très bien qu'on peut mourir. Et puis, la manière que je pensais, c'est que je parte à la guerre pour survivre la guerre. Je ne parte pas à la guerre pour tuer des gens. C'est deux objectifs complètement différents. Ce que tu dois faire dans la vie et ce que tu veux faire doit être soutenu par les gens qui t'aiment, qui veulent vivre avec toi, qui veulent voir du succès avec toi. Eux, ils le vivent différemment. Même si toi, tu es devant des micros tous les jours, il y a des gens qui sont derrière toi, qui te donnent l'opportunité d'être la meilleure version de toi-même.
J'ai une dernière question, Mike, un truc qui m'intrigue. Donc, je crois que c'est dans l'Amazonie, tu t'es blessé au genou. Du coup, tu te retrouves à nager protégeant ton genou. Et un truc qui est une vraie question personnelle pour moi, justement, en développant cet état d'esprit, à me challenger, à me dépasser, il y a parfois des moments où je n'ai pas écouté les signaux de mon corps qui me disent « stop, repose-toi ». Quand est-ce que tu te dis « en fait, là, mon corps, il est en train de me dire quelque chose et il faut vraiment que j'arrête » ou quand est-ce que tu te dis « en fait, là, je peux pousser un corps ».
C'est une frontière qui est difficile de savoir si tu fais ce qui est bien ou pas bien. Mais que moi, je pense Dans la vie, on a trop souvent des options. Ça veut dire que si tu as option A au plan A, B, C, D, dès que tu arrives vers un problème, tu vas dire, ah oui, c'est un problème, on va essayer maintenant option B. Et tu recules de nouveau, tu changes la direction et tu essayes de trouver un plan B. Mais tu te retrouves devant le même obstacle. Imagine qu'il y a un mur. Tu dis, ah ouais, plan B ne marche pas, maintenant il faut qu'on va essayer du plan C. Et tu recules un peu, tu changes la direction et tu commences d'avancer et tu te retrouves devant le même mur. Moi, j'enlève les options parce que la première décision, normalement, dans beaucoup de cas, était la bonne décision. Et quand je vois que je ne traverse pas cette mur, je n'essaye pas de marcher autour du mur. Je me prends une masse, un marteau-piqueur, et je commence à péter cette mur. Parce que même si j'enlève un caillou comme ça, c'est ce caillou de moi sur ma route qui va m'empêcher d'avancer. Et c'est ça qu'on ne veut pas toujours faire, en fait. On ne va pas au bout de ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas ce qui est à l'intérieur de nous. On essaye de faciliter la vie à travers des choix et des options. Quand je quitte mon bateau au pôle Nord et Annika est là avec l'équipage, et puis ta fille te dit, mais papa, écoute, on se voit à l'autre côté. Mais devant toi, tu dois faire quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais réalisé dans la vie. Et elle pense déjà de te voir l'autre côté. Tu t'entoures avec les gens qui croient en toi et qui croient des fois plus en toi que toi-même. Et ça te donne du courage dans la vie. Et il faut du courage pour essayer de sortir de notre zone de confort. Il faut du courage pour résister au vent. Et si tu veux changer ta vie, il faut essayer.
J'espère que tu as aimé l'échange avec Mike, ça a été un travail de dingue d'arriver à produire ça. Et justement, c'est pas fini, j'ai une surprise. Si tu as des rêves, mais que tu ne sais pas comment les atteindre, que tu doutes, que parfois t'as peur, t'as un manque de confiance, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Je te donne le contexte. En fait, lorsqu'on a fait le montage, on s'est dit on veut que l'interview fasse moins d'une heure. Du coup, il a fallu choisir ce qu'on enlève. Et on a enlevé un moment qui est clé. Et t'imagines même pas à quel point c'était pas facile. Ce moment, il est top. Tu vois, c'est un peu le chapitre secret qu'on a enlevé d'un livre. Et en fait, ça faisait trop mal au cœur de décider de le garder pour nous. Et donc, on s'est dit, on va au moins pendant un temps le rendre accessible gratuitement.
Bolgi Ausland, il me posait une question qui me fait comprendre que, ma foi, j'ai zéro chance de traverser le pôle Nord. Et la question qu'il me posait, c'était...
Donc, si t'as aimé l'interview, que t'as envie de pouvoir avancer par rapport à tes projets et tes rêves, l'extrait, il est fait pour toi. Mike explique comment il s'est préparé pour son expédition au pôle Nord, et l'histoire, elle est juste incroyable. Ça va te paraître peut-être étonnant, surprenant, mais sans ce qu'il a mis en place, il serait certainement mort. Cet extrait, il est clé, car trop de gens ont tué leurs rêves par manque de confiance, ou par une peur qui est mal gérée, ou par un excès de confiance. Pour moi, devenir la personne qui réalise ses projets, ça s'apprend. C'est une question d'entraînement, de la même manière qu'on peut apprendre plein de choses. Alors si t'es prêt à vivre tes rêves, prêt à t'entraîner pour réussir, t'as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là, et visionne cette vidéo. Vraiment, elle est dingue. Et pour moi, apprendre à transformer ses peurs, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça commence entre autres avec Mike. Bon visionnage.